la Convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le troisième épisode de notre série consacrée cette semaine au procès de Marie-Antoinette qui, en octobre 1793, conduira à sa condamnation à mort. De quoi Marie-Antoinette était-elle coupable? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Emmanuel de Varesquiel. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Marie-Antoinette, veuve de Louis XVI, enfermée à la prison du Temple avec ses enfants, semblait avoir été oubliée. Durant l'été 93, alors que la situation politique se radicalise, l'ex-reine apprend qu'elle va être jugée.
Levez-vous, citoyenne. Antoinette Capet, la Convention nationale vous a décrété d'accusation. En conséquence, vous allez être appelé à comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Par arrêté du Conseil général de la Commune, vous devez être transféré sur le champ à la prison de la Conciergerie. Veuillez vous apprêter.
Le 2 août 1793, dans la nuit, Marie-Antoinette, qui depuis près d'un an vit au Temple, est réveillée en sursaut. Après avoir fait ses adieux à sa fille et à sa belle-sœur, elle est emmenée et transférée sur l'île de la Cité, à la Conciergerie, surnommée l'Antichambre de la Mort. La prison où sont incarcérés les accusés, en attente d'être jugés par le tribunal révolutionnaire. Mais curieusement, alors que les sans-culottes réclament des coupables et que l'ex-reine a tout du bouc émissaire idéal, Marie-Antoinette va devoir attendre plusieurs semaines son procès. Elle, qui au Temple vivait auprès de membres de sa famille et bénéficiait encore d'un traitement particulier et d'un confort relatif, à la Conciergerie, elle est seule et traitée comme une criminelle de droit commun. Placée dans une cellule individuelle, elle est surveillée par deux gardiens. Une surveillance qui se renforcera encore lorsqu'un complot sera découvert visant à faire évader la reine, la conspiration dite de l'œillet. Une histoire vraie dont on ne connaît pas tous les détails, mais si romanesque qu'elle inspirera une œuvre à Alexandre Dumas, le chevalier de Maison Rouge. Le 28 août, un ancien chevalier du roi, Alexandre Gousse de Rougeville, réussit à rendre visite à la reine en prison. Il porte deux œillets blancs à la boutonnière qu'il laisse tomber par terre avant de quitter la cellule. Un des œillets contient un minuscule message roulé dans les pétales où il est écrit « J'ai à votre disposition des hommes et de l'argent ». La reine rédige une réponse en perçant avec une épingle des trous dans un papier. Un plan d'évasion est fomenté, mais il échoue pour des raisons mal élucidées. Quand le 11 septembre, le complot est découvert, Marie-Antoinette est transférée dans une autre cellule, sans fenêtre ni éclairage, où elle est surveillée en permanence par quatre gardes, deux à l'intérieur et deux à l'extérieur. Toutes les chances de s'évader sont maintenant réduites à néant. Le seul autre espoir d'une libération de la reine résidait dans des tractations menées par la Convention. La France avait proposé à l'Autriche d'échanger Marie-Antoinette contre des prisonniers de guerre. Mais la maison d'Autriche, visiblement peu pressée de voir revenir cette princesse de son sang, n'a pas donné suite. Rien ne peut désormais empêcher le procès.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
La proposition du député Billot-Varenne qui demande, je cite, « que la veuve Capet, la honte de l'humanité et de son sexe, soit décrétée d'accusation » est adoptée le 3 octobre 1793. Le 12 octobre, au milieu de la nuit, Marie-Antoinette subit un premier interrogatoire à huis clos. Le président du tribunal, Martial Hermann, un proche de Robespierre, lui demande quels sont ses noms, âges, professions, pays et demeures. Elle répond « Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche, âgée de 37 ans, veuve du roi de France ». Le juge lui dresse ensuite la liste de tous les faits qui lui sont reprochés. Ses relations coupables avec l'Autriche, ses dépenses excessives, son influence néfaste sur le roi, son rôle aussi dans plusieurs événements de la Révolution, la fuite à Varennes, le massacre des Tuileries et, un mois plus tôt, la conspiration de l'œillet.
Qui êtes-vous?
Maître Chauveau-Lagarde, maître Tronçon du Coudray.
Vos avocats, nous avons eu l'honneur d'être désignés pour assurer votre défense durant votre procès.
Le procès commence le 14 octobre 1793, il va durer deux jours et deux nuits. À 8h du matin, Marie-Antoinette, vêtue de noir, est extraite de sa cellule et conduite par un escalier sombre et tortueux vers la salle du tribunal, où elle entre, entourée d'un piquet de gendarmes, bicornes tricolores sur la tête et armes à la main. De cette salle, appelée « salle de la liberté », tous les accusés qui en reviendront vivants garderont le souvenir d'avoir éprouvé, je cite, « un tremblement universel ». Emmanuel Varesquiel, cette salle où vient d'entrer Marie-Antoinette est celle où auront lieu tous les procès du tribunal révolutionnaire ?
Il y a deux salles en réalité. La salle principale, rebaptisée salle de la liberté, n'est autre que la grande chambre du Parlement de Paris. Il y a une espèce, symboliquement, une espèce de continuité du pouvoir judiciaire depuis le Parlement de Paris aboli en 1790, en passant par la première cour de cassation, puisque jusqu'alors toute justice était dans le roi, et désormais, dorénavant, la justice est prêtée au nom de la nation, donc on crée une cour de cassation, et à partir du 10 mars 1793, après le vote par la Convention nationale de la création du bras armé de la terreur, en réalité, qui est le tribunal révolutionnaire, qui est un tribunal politique. Ce tribunal va siéger dans cette même pièce, la grande chambre du Parlement de Paris. Ce tribunal est un tribunal politique dans la mesure où, même si les Girondins parviennent à arracher le principe d'un jury de jugement, ils ne peuvent obtenir le fait que ce tribunal juge sans appel et que les membres, les 15 jurés du jury de jugement, se prononcent à haute voix individuellement et non pas à bulletin secret. Ce qui, dans ce contexte de la terreur, qui est aussi un contexte de peur extrême, évidemment, et du fait même aussi du choix des jurés,
oui, qu'on
appelle les jurés
convention.
Solides, ouais. Qui au départ devaient être choisis sur liste départementale et qui finalement sont désignés par le comité de salut public, qui est l'organe exécutif de la Convention nationale, ces jurés, avant même que le procès ne commence, sont évidemment prêts à voter la mort de l'ex-reine.
Tous prêts de serment, évidemment, de ne dire que la vérité, de parler sans haine et sans peur.
C'est un serment qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, il y a une vraie
contrainte. Grande distance dans ce procès entre les mots et la réalité politique de la façon dont il est conduit. Le président du tribunal commence par un réquisitoire, alors que normalement il ne devrait pas le faire. Et donc, elle arrive dans cette salle à 9h du matin, le 14 octobre 1793. Le temps est couvert ce jour-là. Il faut imaginer cette espèce de contexte de demi-pénombre dans lequel se déroule le procès pendant 3 jours et 2 nuits, le 14, le 15 et le 16 octobre 1793.
Marie-Antoinette n'a que des ennemis dans ce tribunal, à part ses pauvres avocats.
Alors, les avocats qu'on lui désigne sont des avocats donc nommés d'office, qui sont Chauveau-Lagarde et Tronçon du Coudray, qu'elle ne connaît pas, qui sont prévenus 2 jours avant la date du procès. Ils plaident bien, d'ailleurs, on trouve qu'ils plaident tellement bien qu'on va les décréter d'accusation et qu'on va les emprisonner le lendemain du procès, oui. Le lendemain de la mort de Marie-Antoinette,
oui, quand
pour
il
peu
dit,
que
il y a pas
celle-ci
de preuve,
leur aurait fait des confidences royalistes et contre-révolutionnaires. Donc tout le monde est contraint dans ce procès, y compris, je dirais, les jurés du jury de jugement. Il faut essayer de comprendre la psychologie de ces jurés. D'abord, leur milieu social, ils appartiennent à la boutique parisienne, ce sont des artisans, de petits commerçants, des cabaretiers. Je pense au menuisier Trinchard qui signe ses lettres Trinchard, vrai républicain. Il y a une espèce de mélange à la fois d'utopie, d'enthousiasme, de conviction et en même temps certainement d'ambition, de revanche sociale sur cette reine qui était quasiment inatteignable jusqu'en 1789 et qui devient non seulement l'égale des membres du jury de jugement, mais que les jurés ont entre leurs mains. Dans la mesure où il décide de sa vie ou de sa mort.
Emmanuel de Varesquiel, c'est un procès truqué et le dossier d'instruction est vide.
Toutes les accusations qui sont conduites contre la reine sont conduites sans preuve. Ce qui ne veut pas dire que Marie-Antoinette n'ait pas entretenu une correspondance secrète.
Oui, on le verra,
avec au fond, Marie-Antoinette, cette scène du procès, c'est celle de l'affrontement de deux mondes. Le monde de la Révolution et le monde de la Contra-Révolution qui est incarné par Marie-Antoinette. Ces deux mondes se voient, se regardent, se touchent, mais non seulement ne se comprennent pas, mais se haïssent absolument. Où est la vérité politique dans ce procès ? Du point de vue de Marie-Antoinette, au fond, elle est celle de l'alliance franco-autrichienne qu'elle continue, et elle est aussi celle de l'hérédité monarchique. Elle défend les droits de son fils. Du point de vue de la Révolution, elle est celle d'une Marie-Antoinette qui aurait été la traîtresse absolue de la République.
Donc un procès truqué et pas de preuves. Merci Emmanuel de Varesquiel. Dans le prochain épisode, nous verrons comment, lors de son procès, Marie-Antoinette va répondre aux questions et accusations parfois les plus infamantes avec une étonnante maîtrise politique.